Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc, texte de la liturgie catholique romaine pour le 31e dimanche. Un des scribes s'approche. Les ayant entendus discuter, il voit que Jésus a bien répondu. Il l'interroge.
Quel précepte est le premier de tous?
Jésus répond.
Le premier, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Et le second, c'est « Aime ton prochain comme toi-même. » Il n'est pas d'autre précepte plus grand que cela.
Le scribe lui dit
« C'est bien, maître. Tu as dit avec vérité qu'il est unique et qu'il n'en est pas d'autre que lui. » L'aimer de tout le cœur, de toute la compréhension, de toute la force, et aimer le prochain comme soi-même, c'est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.
Jésus, voyant qu'il a répondu avec sagesse, lui dit
« Tu n'es pas loin du règne de Dieu. »
Et personne n'ose plus l'interroger.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Nous sommes en présence d'un texte qui semble, aux yeux de beaucoup, comme le résumé de l'Évangile. Aimer Dieu et le prochain. Par contre, il peut être surprenant de voir le scribe juif être en accord avec Jésus et déclarer qu'amour de Dieu et amour du prochain sont bien plus que les sacrifices du temple.
Alors, regardons le contexte. Notre passage se situe à la fin d'une série de controverses entre Jésus et les autorités de Jérusalem. Jésus, en effet, vient de faire son entrée dans Jérusalem comme l'humble Messie monté sur un ânon. Il a chassé les vendeurs du temple. Et cela, bien sûr, lui vaut l'hostilité des grands prêtres, des scribes et des anciens. Ces derniers, d'ailleurs, enverront des pharisiens et des hérodiens pour prendre Jésus au piège afin de trouver, dans ses paroles, des motifs pour le condamner. Puis, ce seront des sadducéens qui voudront ridiculiser Jésus sur sa foi en la résurrection. On se souvient qu'ils vont lui proposer un cas plus ou moins loufoque, celui de la veuve aux sept maris. Eh bien, c'est ici que s'insère notre texte. Matthieu, comme Marc, note que Jésus a bien répondu aux attaques des sadducéens. Et même Matthieu indique que les pharisiens veulent encore tendre un piège à Jésus.
Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe et l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour l'embarrasser « Maître, quel est le plus grand précepte dans la Torah ?»
Curieusement, le scribe du récit de Marc vient vers Jésus avec beaucoup de bonne volonté et d'estime. Là encore, la réponse de Jésus va fermer la bouche de ses détracteurs. Notre passage se termine par « Personne n'ose plus l'interroger ».
Quel précepte est le premier de tous?
Eh bien, afin de bien saisir toute la portée de la réponse de Jésus, nous allons brièvement rappeler ce qu'est la Torah. Essentiellement, la Torah, c'est l'enseignement de Dieu à l'humanité, tel que le peuple de Dieu qui est Israël, l'a reçu par l'intermédiaire de Moïse. La foi d'Israël s'appuie sur la Torah comme la vérité, à laquelle chaque juif doit sans cesse confronter sa vie. Cet enseignement, bien sûr, a été transmis par Moïse, mais la Torah doit être reprise par chaque génération pour qu'elle soit vraiment gardée vivante. Les interprétations, d'ailleurs, de cette Torah au cours des âges forment ce qu'on appelle la Torah orale. Eh bien, aujourd'hui encore, l'importance de la Torah est telle que même des juifs de naissance qui sont devenus athées parfois suivent avec beaucoup de fidélité cette Torah. Le mot Torah a été traduit en grec par nomos. Nomos qui veut dire loi, et c'est pour ça que la plupart du temps nos Bibles traduisent la Torah par la loi. Il ne s'agit pourtant pas uniquement de loi à suivre, mais plutôt d'un enseignement qui indique le chemin de la vie et du bonheur. Rappelons ce qu'en dit le Deutéronome au chapitre 30.
Oui, la parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mises devant vous.
Les préceptes de la Torah doivent conduire le peuple et chaque juif à devenir des êtres libres. En effet, seul Dieu, parce qu'il n'est qu'amour, peut créer une relation avec son peuple sans jamais la servir, le mettre en esclavage. Tous les autres dieux, que ce soit l'argent, le sexe, le travail, le pouvoir, sont des dieux qui rendent esclaves. Les 10 grands préceptes de la Torah sont donc des guides vers la liberté. Nous les appelons le décalogue ou bien les 10 commandements. Le mot hébreu qu'on traduit habituellement commandement, c'est mitzvah, le pluriel mitzvot. Eh bien, plutôt que des commandements, les mitzvot sont des exercices que Dieu prescrit à ceux qui veulent devenir des fils et des filles de Dieu. Comme le dit Jean-Yves Leloup, chaque mitzvah est un exercice que Dieu propose à son peuple pour ramener sa présence sur la terre, pour saturer le quotidien d'éternel. Ces préceptes, ils décrivent un mode de vie qui doit nous rendre libres. Libres parce que nous ne deviendrons esclaves de personne, libres parce que nous ne mettrons personne en esclavage.
Tu n'auras pas d'idole. Ne deviens esclave de rien ni de personne. Ne prends possession de personne, ni par le vol, ni par la violence, ni par la séduction.
Et cela, ces préceptes, ces mitzvot, valent aussi bien pour les membres du peuple d'Israël que pour les étrangers qui vivent en Israël.
Tu ne molesteras pas l'étranger ni l'opprimeras, car vous avez vous-même résidé comme étranger dans le pays d'Égypte. Vous avez appris ce qu'éprouve l'étranger.
Il est important, en effet, qu'Israël se souvienne des expériences où il a perdu la liberté, afin de ne pas faire subir aux autres les mêmes épreuves de servitude. Cette règle de l'alliance qui la Torah reprendra souvent le souvenir de la libération vécue par Israël pour inviter chaque Israélite à vivre des relations avec le prochain qui respecte sa liberté.
Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu'à l'extrême bout du champ. Tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne, tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger. Tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis votre Dieu. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Dieu.
Personne, en effet, ne peut devenir un être libre s'il garde son prochain en esclavage. Et c'est pourquoi Dieu demande de porter une attention particulière à tous ceux qui ont perdu leurs droits et donc qui ont perdu leur liberté, c'est-à-dire le démuni, l'opprimé, la veuve, l'orphelin. Cette alliance entre Dieu et Israël est une alliance qui doit être de communion et d'amour, et elle ne peut donc pas se vivre elle ne peut se vivre seulement que dans la liberté. Et il faudra donc garder vivante la mémoire de la Torah pour en avoir dans cette Torah le gage de la liberté.
Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton souffle et de toute ta force. Que ces paroles que je te dis aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. quel précepte est le premier de tous?
Eh bien, dans les écoles rabbiniques, les discussions étaient fréquentes sur l'importance des divers préceptes. On se souvient que la Torah comporte 613 préceptes, 365 qui disent des interdits et 248 qui donnent des prescriptions positives. Et souvent, on classait ces préceptes en préceptes légers et préceptes graves. À l'époque de Jésus, certains rabbis enseignaient que les commandements légers devaient pourtant être aussi chers que les commandements graves.
De même que celui qui transgresse tous les commandements rejette le joug et rompt l'alliance. De même, celui qui transgresse un seul commandement rejette le joug et rompt l'alliance.
Pour d'autres rabbis, c'est le culte des idoles qui était le plus grave des péchés. D'autres donnaient l'idolâtrie, l'inceste et l'homicide comme les fautes les plus graves. Pour d'autres encore, le précepte du sabbat pesait aussi lourd que tous les autres préceptes réunis. Mais, à l'époque de Jésus, l'opinion courante était que les préceptes, parce qu'ils venaient tous de Dieu, étaient donc tous égaux. Eh bien, Jésus était-il du même avis? Il déclare en effet qu'il faut respecter le plus petit des préceptes. Mais alors, on peut se demander comment il se fait qu'il nous semble transgresser la Torah, et cela lorsqu'il guérit le jour du sabbat, ou lorsqu'il laisse un jour de sabbat ses disciples grappiller les épis de blé dans les champs qu'ils traversent, ou parce qu'il est peu scrupuleux sur les ablutions des mains avant les repas. Jésus semble en effet très libre par rapport à certaines règles. Il fréquente la table de pécheurs publics comme les publicains. Il ne demande pas qu'on applique la loi envers la femme adultère, moi je ne te condamne pas. Il ne pratique pas le jeûne, comme les pharisiens et les disciples de Jean. Il ne fait pas de zèle dans le versement de la dîme. Son attitude envers la Torah pouvait donc être suspecte aux yeux des scribes et des pharisiens qui étaient, eux, le plus souvent très scrupuleux sur l'observance et l'observance littérale de tous les préceptes. Et pourtant, Jésus affirmait qu'il n'était pas venu abolir la Torah, mais la porter à son accomplissement.
Celui qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, celui-là sera tenu pour le moindre dans le règne des cieux.
Alors comment comprendre la pensée de Jésus? Eh bien, la réponse à la question du scribe devrait nous éclairer.
Le premier, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Et le second, c'est « Aime ton prochain comme toi-même. » Il n'est pas d'autre précepte plus grand que ceux-là.
Ici, Jésus reprend les textes mêmes de la Bible en Deutéronome au chapitre 6 et au chapitre 19 du Lévitique. Mais d'après d'autres passages bibliques, il y aura plusieurs préceptes qui vont concerner Dieu.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier.
Eh bien, ici, nous avons une formule unique qui résume toutes les obligations de l'être humain à l'égard de Dieu. Et cette formule unique, c'est « Il faut aimer Dieu sans réserve ». Cet amour pour Dieu, la Bible nous dit que c'est d'abord comme une réponse à l'amour de Dieu pour son peuple.
Si le Seigneur Dieu s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moins nombreux d'entre tous les peuples, mais c'est par amour pour vous.
Voilà, c'est par amour pour vous que je vous ai choisi. Bien, tous les prophètes ont chanté cet amour de Dieu, et ils l'ont souvent comparé à l'amour d'un époux pour son épouse.
Comme le jeune homme épouse sa fiancée, ton Créateur t'épousera. Et de l'enthousiasme du fiancé pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi.
Et cet amour de Dieu, les prophètes disent qu'il sera toujours là, et qu'il sera toujours là, même malgré les infidélités de l'épouse.
Celui qui t'a faite, c'est ton époux. Le Seigneur le Tout-Puissant, c'est son nom. Le Saint d'Israël, c'est celui qui te rachète. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car telle une femme abandonnée et dont l'esprit est accablé, le Seigneur t'a rappelé. La femme des jeunes années, vraiment serait-elle rejetée? A dit ton Dieu. Un bref instant, je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. Dans un débordement d'irritation, j'avais caché mon visage, un instant loin de toi, mais avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse, dit celui qui te rachète, le Seigneur.
Et à cet amour fidèle de son Créateur, eh bien la Bible nous dit que le Fils, la Fille de Dieu doivent y répondre par un amour absolu. Le prophète Osée traduira cet attachement comme celui qui établit une fiance, une totale confiance entre l'homme et la femme.
Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le Seigneur.
Aimer Dieu, c'est s'unir à lui avec tout ce que nous sommes pour ne plus faire qu'un avec lui. L'aimer avec son cœur. Le cœur qui est, dans la Bible, le siège de la vie spirituelle, le lieu à la fois des sentiments, de la pensée et de la volonté. Il faut l'aimer avec toute son âme, c'est-à-dire avec toute sa vie. C'est l'aimer aussi avec toute sa force, avec toute son énergie intérieure. L'amour dont parle la Bible engage donc tout autant l'affectivité et la volonté que l'intelligence et la raison. Cet attachement fidèle à Dieu se traduit concrètement par une communion d'esprit. Une communion d'esprit qui implique qu'on soit à son écoute, à l'écoute de Dieu. Oui, il faut écouter Dieu et l'écouter dans une prière faite de beaucoup de silence, de contemplation. Il faut écouter Dieu pour vivre et agir avec le même esprit d'amour que lui, en prenant pour guide ses préceptes.
C'est le Seigneur votre Dieu qui vous éprouve pour savoir si vraiment vous aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. C'est le Seigneur votre Dieu que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses préceptes que vous garderez, c'est à sa voix que vous obéirez, c'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Et le second, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ».
Ce second précepte, tel qu'il est exprimé ici, résume tous les préceptes qui concernent le prochain.
Tu connais les préceptes. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère.
C'est l'amour qui doit habiter tous ces préceptes, si vraiment nous agissons et vivons à la manière de Dieu. Si Dieu demande envers lui cet amour total de tout ton cœur, de tout ton souffle, de toute ta force, c'est pour que son fils, sa fille, puise en cet amour divin la force d'aimer le prochain. En effet, la solidarité humaine est toujours tellement fragile, elle se heurte sans cesse aux égoïsmes de chacun, à la volonté de dominer, une volonté qui cache d'ailleurs le plus souvent la peur de ne pas être aimé. La formule « comme toi-même » n'est pas une recommandation à s'aimer d'abord soi-même pour aimer ensuite le prochain. Elle place le prochain comme étant à traiter à l'égal de soi. Qui ne s'aime pas lui-même ne saurait aimer l'autre. Et si la formule « de tout ton cœur, de tout ton souffle, de toute ta force » signifie un amour total, eh bien cela vaut sans doute aussi bien de l'amour du prochain que de l'amour de Dieu. Une des raisons d'ailleurs qui est invoquée souvent dans les textes pour aimer le prochain, c'est que nous sommes tous les fils et les filles de Dieu.
N'avons-nous pas tous un Père unique? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous perfides l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères?
Le Lévitique semblait limiter le prochain aux membres du peuple juif. Eh bien, Jésus aura une idée différente de qui est le prochain. De même que Dieu fait lever son soleil sur tous, les bons et les mauvais, de même qu'il fait pleuvoir sur tous, les juifs comme les païens, eh bien de même, c'est tout être humain qui doit devenir notre prochain. L'amour dont parle Jésus ne peut être amour que s'il est sans frontières. La parabole du bon samaritain explicite cette ouverture absolue.
Lequel s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui.
Pour Jésus, il ne s'agit donc pas de définir le prochain comme quelqu'un qui nous est proche, proche par le sang, par la religion, par une communauté d'intérêts. Non, pour lui, en effet, le prochain se définit plutôt comme étant celui dont je me fais proche, celui envers qui je décide d'agir avec miséricorde. Humainement, dans la parabole, les deux juifs, le prêtre et le lévite, étaient en effet plus proches du blessé que le samaritain. Ils étaient proches parce qu'ils étaient juifs. Mais si j'aime mon frère, je ne me préoccupe pas de savoir si d'autres sont tenus plus que moi de l'aider. Je ne regarde que sa nécessité présente et ce que je peux faire pour le secourir. Évoquons un beau petit conte chinois qui explicite très bien ce qu'est l'amour du prochain.
Un mandarin partit un jour dans l'au-delà. Il arriva d'abord en enfer. Il y vit beaucoup d'hommes attablés devant des plats de riz. Mais tous mouraient de faim, car ils avaient des baguettes longues de 2 mètres et ne pouvaient s'en servir pour se nourrir. Puis il alla au ciel. Là aussi, il vit beaucoup d'hommes attablés devant des plats de riz. Et tous étaient heureux et en bonne santé, car eux aussi avaient des baguettes longues de 2 mètres, mais chacun s'en servait pour nourrir celui qui était assis en face de lui. Il n'est pas d'autre précepte plus grand que ceux-là.
Jésus résume donc toute la Torah en 2 préceptes qui semblent comme inséparables, aimer Dieu, aimer le prochain. Alors comment expliquer que Dieu et l'être humain semblent être mis sur le même pied? En effet, Dieu n'est-il pas le roi tout-puissant, le Père, le Créateur, l'Éternel, l'amour infini que nous devons mettre avant tous les autres? Mais si nous avons du mal à mettre sur le même plan l'amour de Dieu et celui du prochain, est-ce que cela n'est pas dû à notre manière d'aimer? Nos amours, en effet, sont le plus souvent comme déterminés par ceux que nous aimons. Nous aimons différemment les gens et nous les aimons différemment en fonction du degré de sympathie, d'admiration, de confiance que nous éprouvons pour eux. Mais aimer Dieu et aimer le prochain est un seul et même mouvement s'il s'agit d'un amour gratuit. André Comte-Sponville, bien qu'il se dise athée, rejoint Jésus dans cette vision de l'amour.
Aimer ses amis, ceux qui ne nous manquent pas, ceux qui nous font du bien et qui nous aiment, quoique plus difficile, reste accessible. Mais aimer ses ennemis, mais aimer les indifférents, mais aimer ceux qui ne nous manquent ni ne nous réjouissent, mais aimer ceux qui nous encombrent, qui nous attristent ou qui nous font du mal. Comment serions-nous capables? Comment même pourrions-nous l'accepter? Scandale pour les Juifs, dira saint Paul, folie pour les Grecs. Et en effet, cela excède la loi autant que le bon sens. Pourtant, et quand bien même, cela n'existerait qu'à titre idéal ou d'imagination, cet amour au-delà de l'amour. Cet amour qui n'est ni manque, ni puissance, ni passion, ni amitié. Cet amour qui aime jusqu'aux ennemis, cet amour universel et désintéressé, c'est ce que le grec des Écritures appelle agapé. Agapé est l'amour divin.
Eh bien, c'est cet amour de totale gratuité que l'on pourrait peut-être appeler la bonté généreuse. C'est cet amour dont Jésus parle et dont il peut dire qu'il s'exerce de la même manière si l'on veut aimer Dieu et si l'on veut aimer le prochain. Il s'agit en effet d'aimer Dieu pour lui-même, et non pas parce qu'on en espère des bienfaits en ce monde et la vie dans l'éternité. Et il s'agit d'aimer le prochain, tout être quel qu'il soit, sans rien en exiger en retour. Celui qui ne sait pas aimer gratuitement son prochain est sans doute aussi incapable d'aimer gratuitement le Père divin, car cet amour est un seul et même mouvement de l'être. On ne peut pas le diviser. Et la première lettre de Jean a bien raison. Écoutons ce que Jean dit dans cette lettre au chapitre 4.
Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas.
Nous n'aimons pas Dieu en vérité, c'est-à-dire d'un amour gratuit, si nous n'aimons pas le prochain d'un amour gratuit. L'amour gratuit dont on aime le prochain est un test de vérité de l'amour que nous portons à Dieu. Un amour sur lequel nous pourrions nous faire illusion. Il suffit de refuser d'aimer un seul être pour annihiler dans notre cœur la gratuité de notre amour, que ce soit envers Dieu ou envers les autres. Paul, dans sa lettre aux Romains, exprime aussi comment la Torah est tout entière accomplie par l'amour du prochain.
Celui qui aime son prochain a pleinement accompli la Torah. En effet, les préceptes, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, ne voleras pas, ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est le plein accomplissement de la Torah.
Déjà, 20 ans avant Jésus, le rabbi Hillel enseignait à ses disciples cette règle qu'on a surnommée la règle d'or. Ce que tu ne voudrais pas qu'il t'arrive, ne le fais pas non plus à ton prochain. C'est là toute la loi. Le reste n'est qu'explication. Eh bien, Jésus reprendra cette règle, mais dans une formule positive.
Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. En effet, c'est la Torah et les prophètes.
Eh bien, à la lumière de cette pensée, on comprend mieux l'affirmation du scribe. L'aimer de tout le cœur, de toute la compréhension, de toute la force, et aimer le prochain comme soi-même, c'est bien plus que tous les holocaustes et sacrifices. Tous les préceptes n'ont de consistance qu'en dépendance de cet amour gratuit. La Torah tout entière est sans contenu si on la vide de l'amour agapé. Et la Torah est bien plus que les offrandes cultuelles et les sacrifices. Les sacrifices du temple sont bons, car ils veulent traduire la relation d'amour qu'on a avec Dieu. Mais ils n'ont plus de valeur lorsque la miséricorde a disparu dans le cœur de ceux qui offrent. C'est ce que Jésus n'a cessé de rappeler en citant le prophète Osée. Aux yeux de Dieu, la miséricorde est plus importante que tous les sacrifices du temple.
Jésus, voyant qu'il a répondu avec sagesse, lui dit « Tu n'es pas loin du règne de Dieu ».
Oui, si nous nous laissons aimer de Dieu, si nous apprenons de lui à l'aimer gratuitement, sans rien exiger en retour, si nous apprenons de Jésus à aimer tout prochain, à sa manière à lui, c'est-à-dire avec respect, bonté, tendresse, alors, par cet apprentissage de l'amour vrai, cet apprentissage que va nous faire faire l'Esprit, nous construirons un monde où l'amour de Dieu pourra davantage régner.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro
256-41-10. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse du site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.